Диск 1. Сейчас вы будете выполнять задание по аудированию. Каждый текст прозвучит 2 раза. После 1 и 2 прослушивания у вас будет время для выполнения и проверки заданий. Все паузы включены в аудиозапись. Остановка и повторное воспроизведение аудиозаписи не предусмотрены. По окончании выполнения всего раздела аудирования перенесите свои ответы в бланк ответов номер 1. Задание 1. Вы услышите 6 высказываний. Установите соответствие между высказываниями каждого говорящего А, Ф и утверждениями, данными в списке 1-7. Используйте каждое утверждение, обозначенное соответствующей цифрой, только 1 раз. В задании есть 1 лишнее утверждение. Вы услышите запись 2. Занесите свои ответы в таблицу. У вас есть 20 секунд, чтобы ознакомиться с заданием.
Maintenant, nous sommes prêts à commencer.
Pour ou contre les traditions?
Speaker A. Le festival interceltique de l'Orient n'a jamais attiré autant de monde, les courses de taureaux dans le Languedoc n'ont jamais été aussi nombreuses et n'ont jamais eu autant de spectateurs. On ouvre un peu partout des musées des traditions populaires, on fait revivre des fêtes qui n'étaient plus célébrées depuis 1 siècle. Il y a aujourd'hui en France un retour des traditions. Mais toutes les traditions sont-elles bonnes à conserver? Faut-il être branché tradition? Speaker B.
Je pense que si on abandonne toutes nos traditions, on finira par ne plus avoir de repères. J'aime que l'année soit jalonnée de petits rites. On fait des crêpes à la chandeleur, on s'envoie des vœux pour le premier de l'an, on fait un sapin ou une crèche pour Noël. On danse dans les rues pour le 14 juillet. Ça permet de se retrouver, de casser la monotonie des jours de travail et des week-ends qui se suivent. Oui, il faut garder des traditions et même en adopter d'autres.
Speaker C.
Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je regrette par exemple que pour le jour de l'an, des amis que tu connais bien et que tu ne vois pas souvent se contentent de t'envoyer un SMS de 2 mots ou une carte qu'ils ont trouvée ou achetée sur Internet et sur laquelle ils n'ont même pas pris la peine d'ajouter un mot personnel. Je suis persuadé que le jour de l'an, c'est l'occasion de renouer des contacts et d'avoir des nouvelles des amis et des connaissances.
Speaker D.
À mon avis, il est nécessaire que la tradition ait une justification dans la société, qu'elle ait du sens. Mais quelquefois, c'est purement commercial. Prenons par exemple Halloween. On a voulu imposer cette fête en France alors qu'elle n'a jamais fait partie des traditions françaises. Pendant quelques années, les enfants sont passés pour demander des bonbons. Aujourd'hui, c'est seulement l'occasion pour les boîtes de nuit d'attirer les jeunes la veille de la Toussaint.
Speaker E.
Je trouve que toutes les traditions ne sont pas bonnes à garder. Dans le sud de la France, on fait toujours des corridas où on tue des taureaux dans une sorte de cérémonial barbare digne de l'Antiquité. Les défenseurs de ces spectacles expliquent que les corridas font partie des traditions locales, qu'elles sont artistiques, etc. Je suis d'accord, mais n'en reste pas moins favorable à la suppression de cette tradition, comme les Catalans l'ont fait en Espagne.
Speaker F.
Je crois qu'il existe des traditions stupides qui ont la vie dure, mais qui finissent par disparaître. C'est le cas de Mademoiselle qu'on vient de supprimer dans les papiers officiels. On dira Madame à toutes les femmes, qu'elles soient mariées ou pas. Je trouve ça très bien. C'était de la discrimination. Pourquoi une femme serait-elle obligée de dire si elle est mariée alors que ce n'est pas le cas pour les hommes? Donc, mademoiselle, la case en trop.
Vous avez 15 secondes pour terminer le devoir.
Maintenant, vous allez entendre les textes encore une fois.
Pour ou contre les traditions?
Speaker A. Le festival interceltique de l'Orient n'a jamais attiré autant de monde, les courses de taureaux dans le Languedoc n'ont jamais été aussi nombreuses et n'ont jamais eu autant de spectateurs. On ouvre un peu partout des musées des traditions populaires, on fait revivre des fêtes qui n'étaient plus célébrées depuis un siècle. Il y a aujourd'hui en France un retour des traditions. Mais toutes les traditions sont-elles bonnes à conserver? Faut-il être branché tradition? Speaker B.
Je pense que si on abandonne toutes nos traditions, on finira par ne plus avoir de repères. J'aime que l'année soit jalonnée de petits rites. On fait des crêpes à la chandeleur, on s'envoie des vœux pour le premier de l'an, on fait un sapin ou une crèche pour Noël, on danse dans les rues pour le 14 juillet. Ça permet de se retrouver, de casser la monotonie des jours de travail et des week-ends qui se suivent. Oui, il faut garder des traditions et même en adopter d'autres.
Speaker C.
Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je regrette, par exemple, que pour le jour de l'an, des amis que tu connais bien et que tu ne vois pas souvent se contentent de t'envoyer un SMS de deux mots ou une carte qu'ils ont trouvée ou achetée sur Internet et sur laquelle ils n'ont même pas pris la peine d'ajouter un mot personnel. Je suis persuadé que le jour de l'an, c'est l'occasion de renouer des contacts et d'avoir des nouvelles des amis et des connaissances.
Speaker D.
À mon avis, il est nécessaire que la tradition ait une justification dans la société, qu'elle ait du sens. Mais quelquefois, c'est purement commercial. Prenons par exemple Halloween. On a voulu imposer cette fête en France alors qu'elle n'a jamais fait partie des traditions françaises. Pendant quelques années, les enfants sont passés pour demander des bonbons. Aujourd'hui, c'est seulement l'occasion pour les boîtes de nuit d'attirer les jeunes la veille de la Toussaint.
Speaker E. Je trouve que toutes les traditions ne sont pas bonnes à garder. Dans le sud de la France, on fait toujours des corridas où on tue des taureaux dans une sorte de cérémonial barbare digne de l'Antiquité. Les défenseurs de ces spectacles expliquent que les corridas font partie des traditions locales, qu'elles sont artistiques, etc. Je suis d'accord, mais n'en reste pas moins favorable à la suppression de cette tradition, comme les Catalans l'ont fait en Espagne. Speaker F.
Je crois qu'il existe des traditions stupides qui ont la vie dure mais qui finissent par disparaître. C'est le cas de Mademoiselle qu'on vient de supprimer dans les papiers officiels. On dira Madame à toutes les femmes, qu'elles soient mariées ou pas. Je trouve ça très bien. C'était de la discrimination. Pourquoi une femme serait-elle obligée de dire si elle est mariée alors que ce n'est pas le cas pour les hommes? Donc, Mademoiselle, la case en trop.
C'est la fin de votre devoir. Vous avez 15 secondes pour corriger vos réponses.
Задание 2. Вы услышите диалог. Определите, какие из приведенных утверждений А, Ж соответствуют содержанию текста 1, vrai, какие не соответствуют 2, faux и о чем в тексте не сказано. То есть на основании текста нельзя дать ни положительного, ни отрицательного ответа 3, aucune information. Занесите номер выбранного вами варианта ответа в таблицу. Вы услышите запись дважды. У вас есть 20 секунд, чтобы ознакомиться с заданием.
Maintenant, nous sommes prêts à commencer.
Invitation à la campagne.
Allô, Laura ?
Oui, bonjour, c'est toi, Bertrand.
Oui, c'est moi. Ça va ?
Oui, ça va.
Tu n'as pas l'air très en forme.
C'est vrai, j'ai eu une semaine de travail si chargée. Je meurs de fatigue.
Eh bien, justement, je vais te proposer quelque chose qui va te faire du bien. Je suis sûr que ça va te changer d'idée.
Qu'est-ce que tu as encore inventé ?
Voilà. Je discutais avec Jean hier et on se disait que ce serait bien de changer d'air, de sortir de la ville, d'aller à la campagne. Alors j'ai pensé à mon oncle, le frère de ma mère, celui qui habite en Normandie. Je l'aime bien. Il a une ferme. On y allait souvent quand j'étais petit. J'adorais ça. J'aidais mon oncle à travailler dans les champs, mais surtout, j'aimais m'occuper des vaches. J'étais un parfait paysan.
Des vaches? Tu veux passer ton week-end chez les vaches?
Arrête, je suis sérieux. Il a une grande exploitation agricole près d'un petit village. Et attention, est-ce que tu sais que la Normandie compte plusieurs lieux inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO?
Alors ton oncle élève ses vaches à Mont-Saint-Michel.
Tu peux rire tant que tu veux, mais le village où il habite est classé parmi les plus beaux villages de France. C'est vraiment un vieux village très sympa. Il y a plein de maisons à colombage restaurées avec le plus grand soin. On pourra faire de grandes balades, respirer le bon air, manger des produits de la ferme et déguster des produits régionaux.
Oh, ça a l'air bien. C'est ce qui fait partie des petits bonheurs de la vie.
Justement, je t'assure que tu vas adorer. En tout cas, Jean est d'accord. Il a envie de se mettre au vert. Tu verras mon oncle, il est non seulement drôle, mais il est aussi très engagé et très intéressant. Passionné par son métier. Il est contre les OGM et il a milité avec José Bové. Il le connaît même personnellement.
Il est donc écolo, ton oncle ?
Ah ça oui. Et chez lui, on mange 100% bio.
Vous partez quand ?
Vendredi, vers 6h, et on revient dimanche soir tard.
D'accord, c'est gentil d'avoir posté un mois. Vous passez me prendre ?
Pas de problème, à vendredi. Vous avez 15 secondes pour terminer le devoir. Maintenant, vous allez entendre le texte encore une fois.
Invitation à la campagne.
Allô, Laura ?
Oui, bonjour, c'est toi, Bertrand.
Oui, c'est moi. Ça va ?
Oui, ça va.
Tu n'as pas l'air très en forme.
C'est vrai, j'ai eu une semaine de travail si chargée. Je meurs de fatigue.
Eh bien, justement, je vais te proposer quelque chose qui va te faire du bien. Je suis sûr que ça va te changer d'idée.
Qu'est-ce que tu as encore inventé ?
Voilà. Je discutais avec Jean hier et on se disait que ce serait bien de changer d'air, de sortir de la ville, d'aller à la campagne. Alors j'ai pensé à mon oncle, le frère de ma mère, celui qui habite en Normandie. Je l'aime bien. Il a une ferme. On y allait souvent quand j'étais petit. J'adorais ça. J'aidais mon oncle à travailler dans les champs, mais surtout, j'aimais m'occuper des vaches. J'étais un parfait paysan.
Des vaches? Tu veux passer ton week-end chez les vaches?
Arrête, je suis sérieux. Il a une grande exploitation agricole près d'un petit village. Et attention, est-ce que tu sais que la Normandie compte plusieurs lieux inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO?
Alors ton oncle élève ses vaches à Mont-Saint-Michel.
Tu peux rire tant que tu veux, mais le village où il habite est classé parmi les plus beaux villages de France. C'est vraiment un vieux village très sympa. Il y a plein de maisons à colombage restaurées avec le plus grand soin. On pourra faire de grandes balades, respirer le bon air, manger des produits de la ferme et déguster des produits régionaux.
Oh, ça a l'air bien. C'est ce qui fait partie des petits bonheurs de la vie.
Justement, je t'assure que tu vas adorer. En tout cas, Jean est d'accord. Il a envie de se mettre au vert. Tu verras mon oncle, il est non seulement drôle, mais il est aussi très engagé et très intéressant. Passionné par son métier. Il est contre les OGM et il a milité avec José Bové. Il le connaît même personnellement.
Il est donc écolo, ton oncle ?
Ah ça oui. Et chez lui, on mange 100% bio.
Vous partez quand ?
Vendredi, vers 6h, et on revient dimanche soir tard.
D'accord, c'est gentil d'avoir posté un mois. Vous passez me prendre ?
Pas de problème, à vendredi. C'est la fin de votre devoir. Vous avez 15 secondes pour corriger vos réponses.
Задание 3.9. Вы услышите интервью. В заданиях 3.9 запишите в поле ответа цифру 1, 2 или 3, соответствующую выбранному вами варианту ответа. Вы услышите запись дважды. У вас есть 50 секунд, чтобы ознакомиться с заданиями.
Maintenant, nous sommes prêts à commencer.
Un prof en enfer. On aimerait vous faire découvrir Arthur Taynor, romancier. Comment avez-vous eu l'idée de ce livre et pourquoi avez-vous eu envie de l'écrire?
En 2006, j'ai été invité à rencontrer des élèves d'une classe de 3e dans un collège de La Seyne-sur-Mer. Je n'étais pas aussi détendu que d'ordinaire, car on m'avait annoncé que je me rendais dans une zone difficile, où les problèmes divers et variés étaient légion et quotidiens. Du coup, comme mon prof en enfer, je m'attendais plutôt au pire qu'au meilleur. La vérité, c'est que cela a été une expérience très positivement marquante, au point que cela m'a donné envie d'écrire un roman. En deux mots, j'ai rencontré des adolescents dont le comportement, tout en restant vif et spontané, était d'une maturité réellement inattendue. Ils recevaient un invité et ils ont su lui prouver un intérêt sincère, lui manifester un vrai respect, lui accorder une réelle écoute.
Comment est né le personnage d'Antoine Vacher dans votre esprit et comment avez-vous fait pour l'imaginer, lui donner vie?
Comme pour tous mes héros, les gentils comme les méchants, je fais tout mon possible pour me mettre à leur place. Mais avant cela, il faut leur donner une apparence physique, un caractère, un passé. Bref, leur donner vie comme si je les avais réellement connus. Concernant Antoine Vacher, j'ai voulu un prof aussi banal que possible. Un jeune prof qui débarque de sa province, vulnérable parce qu'il n'a pas été formé à gérer des relations tendues ou conflictuelles, mais pour enseigner le français.
Votre livre casse les préjugés sur les classes ZEP. Pensez-vous qu'on en fait un peu trop sur ces élèves?
Parfois, oui, car il y a des collèges difficiles où l'on travaille aussi bien qu'ailleurs. J'ai eu l'occasion d'aller dans des établissements où il n'est pas exagéré de dire qu'un enseignant risque plus que sa santé en allant travailler. Ce que je peux simplement dire, c'est qu'il ne faut, comme en toute autre chose, préjuger de rien, ou plutôt ne désespérer de rien. Ce que tente de nous montrer l'expérience d'Antoine Vacher, c'est que dans des classes où la pédagogie classique est en échec, si l'on s'y prend différemment, si on fait preuve d'audace et d'inventivité, on peut obtenir des résultats spectaculaires.
Avez-vous rencontré des difficultés dans l'écriture de ce livre?
Je craignais de ne pas être assez près des réalités quotidiennes d'un établissement d'aujourd'hui. Mais c'est mon travail de romancier. Je n'ai jamais fait la guerre et l'ai pourtant raconté. Je n'ai jamais été confronté à une injustice et j'ai pourtant écrit des récits d'injustice.
Enfin, est-ce que vous auriez aimé, dans une autre vie, être professeur?
Je l'ai été dans une école de commerce. C'est très différent de ce qu'on peut vivre dans les collèges actuels. D'autant plus que j'avais des jeunes gens plutôt motivés et assez mûrs pour, en principe, savoir respecter leurs professeurs. Pour conclure, je dirais que l'écriture de ce roman a renforcé en moi la conviction que le respect est la valeur souveraine de l'humanisme. Si ce mot était au cœur de toute pensée et de tout acte, ce serait le paradis sur terre. En attendant, cultivons notre jardin et préservons-nous des préjugés. Vous avez 15 secondes pour terminer le devoir. Maintenant, vous allez entendre le texte encore une fois.
Un prof en enfer. On aimerait vous faire découvrir Arthur Taynor, romancier. Comment avez-vous eu l'idée de ce livre et pourquoi avez-vous eu envie de l'écrire?
En 2006, j'ai été invité à rencontrer des élèves d'une classe de 3e dans un collège de La Seyne-sur-Mer. Je n'étais pas aussi détendu que d'ordinaire, car on m'avait annoncé que je me rendais dans une zone difficile, où les problèmes divers et variés étaient légions et quotidiens. Du coup, comme mon prof en enfer, je m'attendais plutôt au pire qu'au meilleur. La vérité, c'est que cela a été une expérience très positivement marquante, au point que cela m'a donné envie d'écrire un roman. En deux mots, j'ai rencontré des adolescents dont le comportement, tout en restant vif et spontané, était d'une maturité réellement inattendue. Ils recevaient un invité et ils ont su lui prouver un intérêt sincère, lui manifester un vrai respect, lui accorder une réelle écoute.
Comment est né le personnage d'Antoine Vacher dans votre esprit et comment avez-vous fait pour l'imaginer, lui donner vie?
Comme pour tous mes héros, les gentils comme les méchants, je fais tout mon possible pour me mettre à leur place. Mais avant cela, il faut leur donner une apparence physique, un caractère, un passé. Bref, leur donner vie comme si je les avais réellement connus. Concernant Antoine Vacher, j'ai voulu un prof aussi banal que possible. Un jeune prof qui débarque de sa province, vulnérable parce qu'il n'a pas été formé à gérer des relations tendues ou conflictuelles, mais pour enseigner le français.
Votre livre casse les préjugés sur les classes ZEP. Pensez-vous qu'on en fait un peu trop sur ces élèves?
Parfois, oui, car il y a des collèges difficiles où l'on travaille aussi bien qu'ailleurs. J'ai eu l'occasion d'aller dans des établissements où il n'est pas exagéré de dire qu'un enseignant risque plus que sa santé en allant travailler. Ce que je peux simplement dire, c'est qu'il ne faut, comme en toute autre chose, préjuger de rien, ou plutôt ne désespérer de rien. Ce que tente de nous montrer l'expérience d'Antoine Vacher, c'est que dans des classes où la pédagogie classique est en échec, si l'on s'y prend différemment, si on fait preuve d'audace et d'inventivité, on peut obtenir des résultats spectaculaires.
Avez-vous rencontré des difficultés dans l'écriture de ce livre?
Je craignais de ne pas être assez près des réalités quotidiennes d'un établissement d'aujourd'hui. Mais c'est mon travail de romancier. Je n'ai jamais fait la guerre et l'ai pourtant raconté. Je n'ai jamais été confronté à une injustice et j'ai pourtant écrit des récits d'injustice.
Enfin, est-ce que vous auriez aimé, dans une autre vie, être professeur?
Je l'ai été dans une école de commerce. C'est très différent de ce qu'on peut vivre dans les collèges actuels. D'autant plus que j'avais des jeunes gens plutôt motivés et assez mûrs pour, en principe, savoir respecter leurs professeurs. Pour conclure, je dirais que l'écriture de ce roman a renforcé en moi la conviction que le respect est la valeur souveraine de l'humanisme. Si ce mot était au cœur de toute pensée et de tout acte, ce serait le paradis sur terre. En attendant, cultivons notre jardin et préservons-nous des préjugés. C'est la fin de votre devoir. Vous avez 15 secondes pour corriger vos réponses.
Votre épreuve de compréhension orale est terminée.
Время, отведенное на выполнение заданий, истекло.